Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Accent d'Europe, une émission spéciale enregistrée depuis le Parlement européen à Strasbourg à l'occasion du lancement de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et du discours mercredi du président Emmanuel Macron. En studio à mes côtés, deux invités, deux eurodéputés. Bernard Guetta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parlementaire européen français, membre du groupe centriste Renew et de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée. Vous avez derrière vous une belle carrière de journaliste. Et vous connaissez particulièrement bien la Russie. Nous allons amplement en parler pendant cette émission. Avec nous également en studio, Anna de Parnay-Grunenberg. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée allemande du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Et on commence cette émission avec une séquence élyséenne et très européenne aussi.
Nos générations ont aujourd'hui à refonder notre Europe pour faire face à ces promesses de démocratie vivante, de progrès et de paix. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour revenir sur nos grands textes fondamentaux qui ont pourtant été décidés souverainement par les États membres lors de leur adhésion. Face à ce retour du tragique dans l'histoire, l'Europe doit s'armer, non pas par défiance vis-à-vis des autres puissances, non, mais pour assurer son indépendance dans ce monde de violence, pour ne pas subir le choix des autres.
Extrait choisi et très européen du discours d'Emmanuel Macron en ce milieu de semaine devant les parlementaires européens à Strasbourg pour lancer cette présidence française du Conseil de l'UE, soit très concrètement la présidence des conseils des 27 ministres européens qui, par spécialité, codécident avec le Parlement des futures législations. 6 mois, voire plutôt 3 en raison de la campagne présidentielle qui va empiéter sur ce temps européen. Bernard Guetta, est-ce que la France va pouvoir changer l'Europe en 6 mois?
Mais non, évidemment pas. Évidemment pas. Mais le président de la République n'a évidemment pas tracé un programme pour les 3 mois et encore moins les 6 mois qui viennent. C'est un programme sur le court, le moyen et le long terme. Il y a un certain nombre de ces propositions qui pourraient raisonnablement, on peut l'espérer, être réalisées dans ce semestre. Je pense, par exemple, je l'espère énormément à l'introduction d'un salaire minimum dans les 27 États membres de l'Union européenne. Mais il y a des choses qui, évidemment, sont pour les 10 ans qui viennent, notamment la défense européenne.
Anna de Parnay-Grunenberg, quel regard porte l'Allemande que vous êtes sur cette présidence française de l'UE, un peu trop arrogante à vos yeux ou...
Mais je dirais, bien sûr qu'en tant que franco-allemande, je suis aussi impatiente de ce que va proposer la France dans ce temps de la présidence. Le discours de Macron a aussi mis en avant des choses, bien sûr, que nous, en tant qu'écologistes, l'état de droit, qui est un trésor européen, beaucoup de choses très belles. La question, on va dire, beaucoup plus pragmatique, c'est en 2006, je vous rappelle, l'Allemagne avait refusé de prendre la présidence de l'UE parce qu'elle était en pleine campagne. Et là, c'est l'inverse. On a donc le président Macron et le gouvernement français qui vont en même temps devoir gérer les 6 mois, normalement, qui sont déjà très, très courts, de mettre en place les dossiers, les trilogues, de faire avancer les vrais dossiers, la législation européenne pour toute l'Europe. Et en même temps, on sait qu'à partir de mars, la France va devoir se mettre en retrait. Donc, en fait, ça va être un peu une mini-présidence au niveau du temps et une énorme présidence par rapport aux ambitions qu'on a entendues.
Les sujets que veut mettre en avant la France sont nombreux. La souveraineté sur la scène internationale et économique, la question des migrations, le revenu minimal, on va en parler, ou la taxe carbone aux frontières. Bernard Guetta, le président français est très attaché à la question de la souveraineté européenne ou encore de l'autonomie stratégique, suivant comment on souhaite l'appeler. À l'heure où nous enregistrons cette émission au milieu de semaine, 100 000 soldats russes sont postés aux frontières extérieures de l'Ukraine.
Et ils s'en additionnent à la frontière de la Biélorussie et de l'Ukraine maintenant.
Très menaçant. Elle semble quand même très mal partie, cette Europe puissante, si on regarde comment l'UE a été évincée de tous les pourparlers.
Écoutez, elle semble très mal partie et même très mal en point si on regarde la journée d'aujourd'hui ou la journée de demain ou le mois prochain. Si on change de lunettes et qu'on se dit, mais finalement, est-ce que l'Union européenne n'est pas en train d'entrer, par nécessité, dans la troisième étape de la construction de son unité ? Il y a eu le marché commun qui est devenu le marché unique, il y a eu ensuite la monnaie unique, je crois... qu'on nous sommes en train d'entrer dans la phase de construction d'une union politique avec une défense commune, avec une politique étrangère commune, avec des emprunts communs pour des investissements communs, avec la définition de priorités industrielles, etc. On change de donne parce qu'on a changé de siècle.
D'accord, mais sur la politique internationale, on n'est pas encore reconnu comme acteur en tant que tel, en tout cas pas par Vladimir Poutine.
Écoutez, on est tellement reconnu par Vladimir Poutine comme acteur que précisément, il ne veut pas de nous à la table parce que nous l'inquiétons, parce que nous lui posons un problème. Il ne veut pas d'une union européenne qui devienne une union politique. Parce qu'à ce moment-là, il aurait à discuter avec cette union.
Anna de Parnay-Grunenberg, votre ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est rendue à Kiev cette semaine, à Moscou, signe quand même qu'on négocie peut-être plus avec les gouvernements nationaux qu'avec l'Europe en tant que telle. Il y a un gros dossier qui pèse sur les relations entre l'Europe et la Russie, c'est ce fameux gazoduc qui relie directement la Russie et l'Europe, le Nord Stream 2. Est-ce que ce gazoduc ne vient pas mettre l'Europe en position de faiblesse face à la Russie ?
D'un certain point de vue, évidemment, mais il faut gérer avec l'histoire. C'est-à-dire que ce contrat a été malheureusement, d'un point de vue écologiste, vous pouvez bien l'entendre, mis en place il y a maintenant plus de 20 ans. L'ère Merkel n'a pas fait avancer le dossier du tout. Et maintenant, nous, on se retrouve en fait dans une nouvelle constellation, je dirais, au niveau de l'ambition européenne, comme au niveau du gouvernement allemand. Mais il y a bien sûr ces contrats et il y a bien sûr aussi la façon dont la Russie agit envers l'Union européenne qui a complètement changé. Donc c'est sûr que là, moi, je suis aussi, on va dire, en phase par rapport à cette idée que l'Europe va falloir qu'elle parle en une voix unique et pas seulement envoyer les gouvernements propres. Donc là, je vois aussi le président Macron a envie de rentrer là-dedans. Par contre, je pense la différence que nous, on voit vraiment, nous, on veut faire une politique internationale qui est basée sur des valeurs et ce ne sont pas seulement des valeurs eurocentristes parce que le droit de l'homme et le droit de la femme, c'est international. Donc ça ne s'arrête pas aux frontières. Donc ça, c'est un peu la différence de comment nous, on veut mettre en fait la politique internationale en avant. C'est aussi faire attention au climat et aux inégalités dans le monde.
Et sur la Russie, Bernard Guetta, oui. Comment se réinviter à la table des négociations ? Est-ce que la question des sanctions, elle est suffisante aujourd'hui ?
Tout dépend de la nature des sanctions. Si on envisage, et je crois que ça va être le cas, des sanctions qui puissent être réellement dissuasives, oui, elles peuvent peser dans la balance, à condition aussi qu'on les rende publiques. C'est-à-dire que M. Poutine sache à quoi il doit s'attendre s'il sanctionne. Mais si vous me permettez, encore un petit mot sur la question de l'énergie, parce que justement c'est directement lié à la Russie. Nous sommes aujourd'hui, nous les pays de l'Union européenne, dépendants en matière énergétique de la Russie. C'est absolument déplorable. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que dans cette dépendance, la Russie est aussi totalement dépendante de nous. Parce que si nous ne lui payons pas les fournitures d'énergie, son budget explose littéralement. C'est-à-dire que la Russie a au moins autant besoin de nous que nous avons besoin d'elle.
L'Europe sur la scène internationale, l'Europe et le monde, l'Europe et ses frontières aussi sont des thèmes que souhaite mettre en avant la France. Je vous propose d'écouter notre correspondante en Pologne, Sarah Bakaloglu. Elle revient sur cette crise des migrants instrumentalisée par la Biélorussie à la frontière polonaise. La crise humanitaire n'est pas terminée, alertent les associations venant en aide aux migrants. Plusieurs dizaines de personnes tentent de traverser chaque jour cette frontière alors que la construction du mur doit commencer d'ici quelques jours, le 25 janvier prochain, on l'écoute.
Pour l'association Groupa Granitsa, la somme dépensée pour la construction du mur, soit environ 353 millions d'euros, devrait plutôt servir à mettre en place une politique migratoire qui aide et protège les migrants. La migration ne s'arrêtera pas avec un mur, met en garde le groupe de militants qui signale que les traversées de la frontière continuent actuellement, certes dans des proportions moins importantes que lors du pic de l'automne dernier. Selon les gardes-frontières polonais, 38 personnes ont tenté de franchir illégalement la frontière le 16 janvier par exemple. Des chiffres qui ne représentent pas toute la réalité des traversées, mais la route empruntée par les migrants est tout aussi dangereuse avec des températures extrêmes allant jusqu'à moins 20 degrés. Il y a quelques jours par exemple, des associations sont venues en aide à un groupe de 8 personnes originaires de Syrie, Yémen, Palestine et Égypte, découverts côté polonais dans la forêt. L'un d'entre eux, un jeune homme syrien d'environ 18 ans, était dans un état de fatigue extrême et en hypothermie. Emmené à l'hôpital, il a ensuite été ramené à la frontière avec la Biélorussie par les gardes frontières polonais, dénoncent les organisations. Grupa Granitsa a indiqué avoir aidé depuis le 1er janvier 17 adolescents et enfants, le plus jeune étant âgé d'un an et demi seulement. De cette zone restreinte d'accès, des intimidations croissantes contre les militants, habitants et journalistes sont rapportées. Les journalistes peuvent se rendre à la frontière seulement lors d'un voyage de presse organisé par les autorités polonaises. Et côté ONG, il y a une semaine, Médecins sans frontières a annoncé retirer ses équipes envoyées en urgence il y a 3 mois dans la région. La raison, le refus répété des autorités polonaises de leur accorder l'accès malgré les besoins. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU s'est également vu refuser l'accès à la frontière lors de sa visite en Pologne début décembre.
La France qui voudrait réformer l'espace Schengen et mieux protéger ses frontières. Ça veut dire quoi, mieux protéger ses frontières, Bernard Guetta ?
Tout simplement augmenter les effectifs de Frontex, c'est-à-dire de la garde commune des frontières de l'Union européenne et non pas des frontières nationales, et organiser des points de passage et aussi des points de dépôt communs de l'Union européenne des demandes d'asile. Je ne crois pas que cela soit scandaleux. Au contraire, si on organise sous la surveillance des institutions européennes et sous la surveillance des ONG, parce que dès qu'il y aura point fixe, eh bien, évidemment, ça pourra être beaucoup mieux surveillé que s'il y a l'éclatement actuel que personne ne peut contrôler. Et donc, on peut arriver à un double progrès, c'est-à-dire un progrès dans la protection des migrants et un progrès dans la protection des frontières.
Il faut remettre de l'Europe dans un sujet qui a tendance à être renationalisé, chacun voulant surveiller lui-même ses frontières.
Mais bien sûr, parce qu'en l'occurrence, l'Union européenne et ses règles sera forcément beaucoup plus sourcilleuse sur le respect des droits que ne le sont certains des États membres de l'Union européenne. Une phrase encore. Autant on peut comprendre que la Pologne ne veuille pas ouvrir ses frontières à ces migrants qui ont été déplacés directement
par
la Biélorussie et le régime de M. Loukachenko afin d'essayer de déstabiliser politiquement l'Union européenne. Autant il est absolument scandaleux, totalement inadmissible et tout simplement monstrueux que les autorités polonaises ne laissent pas les ONG, le HCR, Frontex, aller s'occuper du secours
travailler
à ces
sur
gens.
Place.
Mais bien sûr.
Anna Toparnay-Grunenberg, l'Allemagne qui a accueilli plus d'un million de réfugiés en 2015 a une position à part au sein de l'Europe. Quel regard vous portez sur cette incapacité européenne à traiter du sujet des migrations ? Ça fait des années qu'on attend ce pacte asile et migration.
C'est vraiment triste. Et c'est vraiment un des sujets où je me dis que les valeurs européennes qu'on met toujours en avant sont souvent quand même de très beaux discours et qu'on n'arrive pas à agir. Alors je dirais que la seule chose où je peux être d'accord avec le président Macron, c'est de dire qu'il faut arrêter d'avoir le principe d'unanimité pour les choses de politique étrangère et de migratoire, parce qu'il nous faut des majorités simples pour pouvoir agir dans l'Europe.
Et comment ?
Eh bien, il faut changer les traités. C'est pour ça que nous avons aussi la conférence pour le futur de l'Europe. Il y a certains domaines où nous n'allons pas pouvoir être un acteur politique international, ni humain, ni écologique d'ailleurs, si on n'arrive pas à submerger.
Mais sur la question migratoire, que faut-il faire ?
Moi, je trouve qu'on se ment beaucoup. Je trouve qu'aussi protéger les frontières, ça fait très joli, mais en fait, c'est des barbelés et c'est des kalachnikovs. Protéger les frontières, ça veut dire quoi ? Moi, je trouve que c'est déplorable que toutes ces personnes qui sont dans les bateaux, par exemple, et qui meurent en Méditerranée, elles ont tous payé plus à leurs passeurs qu'elles ne paieraient pour un billet d'avion, pour aller dans ces pays et revenir. Il faut qu'on puisse permettre une immigration de rentrer plus perméable, de ressortir, de faire des études, de repartir.
Il faut organiser.
Il faut organiser et elles seront beaucoup plus ouvertes et tolérant, et surtout quand on a des monstruosités comme ça au bord de la frontière polonaise-biélorusse, il faut agir tout de suite pour sauver et pour avoir le droit de parler d'humanité au nom de l'Union européenne.
On parle de quelques milliers de migrants.
Oui.
L'Europe s'est construite sur la libre circulation intérieure et réalise aujourd'hui donc qu'elle doit pour cela sécuriser ses frontières extérieures. De la même manière en matière économique, l'Europe s'est bâtie sur le marché, sur la concurrence. Et là aussi revient la notion de protection avec le social. Un revenu minimal, non pas un revenu unique, mais une manière de calculer un revenu décent à l'échelle européenne, pourrait voir le jour dans les prochains mois. Un pays, la Bulgarie, où le revenu minimum est le plus faible d'Europe, regarde avec beaucoup d'intérêt ce projet, notre correspondant à Sofia, Damien Vodenicharov.
650 levas bulgares, c'est le SMIC brut en Bulgarie, ce qui équivaut à 330 euros. Une fois les cotisations sociales soustraites, les salariés ne touchent que 250 euros net. On est bien loin du salaire moyen en Bulgarie, qui est de près de 800 euros par mois. Plus d'un tiers des dépenses familiales sont liées à l'achat de nourriture, évalué à 230 euros par mois en 2020, soit 20 euros de moins que le salaire minimum. Plus de 20% des actifs sont rémunérés au salaire minimum dans le pays. Il y a donc beaucoup de travailleurs pauvres, mais aussi beaucoup de travail au noir, 20% de l'économie. Le travail sous-déclaré est très courant. Les employés reçoivent une partie de leur salaire en liquide et évitent ainsi de payer des cotisations. Ce qui arrange bien leurs employeurs aussi, qui économisent les dépenses liées aux prélèvements sociaux. Depuis 2012, le salaire minimum augmente chaque début d'année. Il est ainsi passé de 135 euros il y a 10 ans à sa valeur actuelle de 325 euros brut. Cette année cependant, les négociations avec le patronat se sont avérées difficiles, en pleine crise sanitaire, mais aussi avec une inflation officielle de plus de 7% sur un an. Finalement, le salaire minimum devrait augmenter de 30 euros à partir d'avril au plus tôt.
L'Europe qui s'intéresse au social, généralement domaine réservé des États, c'est une révolution pour l'UE. Nécessité de redorer son image alors qu'on l'a tant critiqué depuis 2010.
Vous savez, tout simplement, au début des années 80, même à la fin des années 70, le monde a commencé à basculer vers ce qui n'était pas le libéralisme, mais un néolibéralisme inventé par l'école de Chicago et propagé par Madame Thatcher et Ronald Reagan. Ça a converti le monde entier, Europe comprise. Ça a eu de bons effets aussi.
L'Europe et là, dit, il faut changer.
L'Europe et le monde entier. Oh, le monde est en train de sortir de la domination des idées de l'école de Chicago et de revenir à Keynes. Vous le voyez dans le retour des investissements publics dans les industries du futur. Vous le voyez dans la préoccupation sociale. Vous l'avez vu, nous l'avons tous vu, dans la volonté qu'a eue l'Union européenne de parer les dégâts économiques de la pandémie par l'emprunt et l'investissement.
Par ce vaste plan de relance, exactement. 750 milliards d'euros, hein, avec des prêts mutualisés entre les différents États européens. C'est une belle image de l'Europe, Anna de Parnay-Grunenberg, cette Europe qui veut de la cohésion, de la solidarité, du
bien
social,
sûr.
On y croit.
Oui, bien sûr. Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit M. Guetta. Je pense que ce n'est pas seulement un changement d'école. On arrive à un moment donné où on voit bien que, on va dire, un capitalisme effréné exploite les hommes et les femmes, exploite les écosystèmes, et à la fin du compte, même les personnes les plus riches et les mieux loties de cette planète voient qu'il n'y a plus d'avenir pour eux et pour leurs enfants. Donc en fait, ce n'est pas seulement non plus altruiste toute cette histoire, c'est vraiment un nouveau paradigme. Bien sûr que quand il y a eu cette pandémie, et il faut rappeler, hein, les pandémies sont aussi, on le sait, liées à la façon dont on traite les écosystèmes. On ne sait pas d'où ça vient le virus, mais enfin, il y a quand même des grandes preuves que ça vient d'un monde, on va dire animal, qu'on a mis dans des coins de la planète beaucoup trop petits pour eux. Donc en fait, on a aussi cette Union européenne qui veut avancer sur la biodiversité, mais d'abord, il faut sauver en gros les meubles. Et donc on a mis en place pour la première fois ensemble un plan de relance pour les économies les plus touchées par le Covid. Il va falloir par contre investir vraiment dans le futur pour que ce soit des investissements qui aident nos enfants parce que c'est eux qui vont devoir payer.
Oui, et d'ailleurs l'accent a été mis sur des investissements vers le numérique
et la transition verte.
Vers l'écologie
exactement,
et la transition verte.
Exactement.
Pas assez à notre goût. Il y aurait pu avoir plus de rails et plus d'infrastructures réelles parce qu'avec le digital, on peut faire aussi beaucoup de pollution si on en fait trop. Par contre, oui, nous poussons les États membres pour aller vers de la digitalisation verte et de la vraie écologie.
C'était Accent d'Europe aujourd'hui. Merci à nos deux parlementaires européens de France et d'Allemagne, Bernard Guetta et Anna de Parnay-Grunenberg, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Ludivine Amado, Françoise Grolot et aux moyens techniques du Parlement européen pour la réalisation. À la semaine prochaine.
Dankeschön.